Radio Okapi. Le journal de 6 heures, Belinda Bossouma à la présentation.
Plus de 15 ans de décentralisation en RDC, mais le développement des provinces tarde à venir. Qu'en est-il de cette situation? Le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika pense que l'échec de la décentralisation est dû notamment à la mauvaise gestion et au non-respect des principes constitutionnels. Une quarantaine de civils tués en 3 semaines par des EDF à Bénéville. La société civile dénonce ces nouveaux massacres des innocents et exige des opérations militaires d'envergure contre ces rebelles. L'armée, elle, appelle la population à bien canaliser les alertes et éviter de tout mettre sur les réseaux sociaux. Et puis, l'invité de ce matin, Giuseppe Angelini, membre de l'Union européenne au département des affaires humanitaires et protection des civils, en séjour à Goma. Il nous parle notamment du financement de l'Union européenne pour des projets humanitaires dans la région des Grands Lacs. Heureuse de vous retrouver, madame, messieurs, bonjour. Plus de 15 ans depuis la mise en œuvre de la décentralisation en République démocratique du Congo, le développement des provinces tarde à venir. La crise institutionnelle au niveau des provinces est devenue trop récurrente, alors que les institutions provinciales sont même privées des moyens pour leur politique. Qu'est-ce qui explique ce que certaines opinions qualifient d'échec de la décentralisation en RDC, alors que sous d'autres cieux, elle est la clé d'un développement à partir de la base, tant de réponse avec Michel Kifindangoy.
À en croire le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'échec de la décentralisation est dû notamment à la mauvaise gestion et au non-respect des principes constitutionnels. Cyril Kimpu-Awel.
La première raison, c'est le manque d'hommes et de femmes à la tête des institutions, les hommes intègres. La deuxième raison, c'est l'impunité qui continue à régner dans nos provinces. Des responsables qui dilapident des ressources mises à leur disposition, le manque de contrôle sérieux, surtout que les ressources restent très très limitées.
Que donc faire pour améliorer la gouvernance multiniveau en RDC? Professeur Ngoma Binda répond.
La décentralisation devrait être une étape vers le fédéralisme de notre pays. Des millions de kilomètres carrés doivent être gérés à la base. Mais telle qu'elle fonctionne, la décentralisation n'est pas efficace. Rien que pour avoir la rétrocession des 40% fixée par la Constitution, c'est tout un problème.
Pour le professeur Ngoma Binda, la décentralisation, mieux le fédéralisme, reste la meilleure forme de l'État adaptée pour le développement des vastes pays comme la RDC.
Et justement, pour faire face aux difficultés de fonctionnement des institutions provinciales, le nouveau rapporteur adjoint élu du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central appelle son institution à travailler en harmonie parfaite avec le gouvernement provincial pour la cause du peuple. Billy Ntunga l'a dit après l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central ce week-end. Reconduit à ce poste, il atteste que l'expérience du passé a démontré qu'il existait une volonté manifeste de la part du gouvernement provincial de déstabiliser le bureau de l'Assemblée provinciale, d'où son souci de voir ces institutions provinciales travailler pour l'intérêt du peuple. Billy Ntunga, dans ses propos recueillis par Nana Plurish Mambo.
Donc nous avons ciblé les choses en fonction de la volonté de la population. Ce qui est fait, je pense que maintenant il est temps de nous mettre au travail pour accompagner la vision des chefs de l'État qui va permettre le vrai développement dans le Congo central. Vous avez vu à la législature passée, il y a eu plusieurs tentatives de déstabilisation de l'Assemblée provinciale. Et quand on veut déstabiliser de l'Assemblée provinciale, on passe par le bureau. Quand le bureau cède, eh bien c'est toute l'Assemblée provinciale qui s'ébranle. Un membre du bureau doit avoir les épaules larges. Un membre du bureau doit rester droit dans ses bottes. Je l'ai dit par expérience, parce que vous avez vu ce qui s'est passé à la législature dernière, où il fallait hypothéquer les intérêts de la population et il fallait passer par le bureau et pour déstabiliser toute l'Assemblée et punir davantage la population. J'étais celui qui avait dit non. Et ça, je pense que nous devons éviter ce genre de choses, raison pour laquelle je souhaite que les deux institutions puissent fonctionner en harmonie et de façon que l'une ne cherche pas à déstabiliser l'autre pour des intérêts mesquins.
Je vous l'ai dit dans les titres, dans la ville de Beni au Nord Kivu, une quarantaine de civils ont été tués en l'espace de 3 semaines par les rebelles des EDF. La dernière attaque survenue vendredi dernier a fait 15 morts, dont 6 femmes au quartier Sayo. Des voix s'élèvent pour réclamer des opérations militaires d'envergure pour enrayer cette vague des tueries dans cette région qui connaît malheureusement un regain d'activisme des rebelles des EDF. Le point avec Marc Marofimbo.
Mangina, Mavivi, Sayo, Bunji, Matembo, Mutube, Kasangatuha, depuis 3 semaines, les rebelles des EDF sèment terreur et désolation dans la ville et territoire de Beni au Nord Kivu. Alors que cela faisait plusieurs mois qu'une accalmie était observée dans la région et contrairement à leurs habitudes pendant les mois de Ramadan, les rebelles des EDF ont renoué avec les attaques causant des dizaines de morts. Le 4 mars dernier, 5 civils ont été tués à Mangina où des dizaines de maisons de commerce ont également été incendiées. À Mavivi, la semaine dernière, 9 civils ont été tués dans la forêt de Mutube. Plus récemment à Sayo et Kasangatuha, dans la ville de Beni, 15 civils ont été sauvagement tués, dont 6 femmes. La société civile dénonce ces nouveaux massacres d'innocents et exige des opérations militaires d'envergure contre ces rebelles. Maître Pepe Kavota est le président de la société civile, coordination urbaine de Beniville.
Il est urgent que les autorités à tous les niveaux, et surtout celles de l'état de siège, doivent s'activer pour mettre fin à cette barbarie.
De son côté, l'armée appelle la population à bien canaliser les alertes et d'éviter de tout mettre sur les réseaux sociaux, car infiltrés par l'ennemi. Pendant ce temps, des voix s'élèvent afin que les opérations conjointes FRDC et UPDF soient élargies dans cette partie ouest de la ville et territoire de Beni sous menace permanente des rebelles des EDF. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Par ailleurs, la nouvelle société civile du secteur de Rwenzori, toujours à Beni, pointe du doigt des éléments des FARDC affectés dans cette zone il y a un mois. Ces derniers ont blessé par balle 3 civils en début du week-end dans le quartier Vimbwembwe, commune rurale de Bulongo. C'est à 40 km de Beni sur l'axe Kasindi. D'après la nouvelle société civile, ces éléments extorquent des téléphones portables et de l'argent des populations. Cette structure citoyenne dit craindre que ce comportement n'affecte le mariage civilo-militaire et appelle les responsables militaires à tout mettre en œuvre pour que les militaires auteurs de ces forfaits soient sanctionnés. Meleki Mulala, joint par Marc Marofimbo.
Les responsables des différentes unités doivent voir comment travailler sur la manière de faire de nos jeunes militaires récemment affectés à Bulongo, même à Mutuanga, parce que nous avons beaucoup souffert et cette population a beaucoup traversé. Ce n'est pas encore le moment de les traumatiser et maltraiter, mais c'est le moment de les conscientiser, le moment de les donner le courage de vivre ensemble, à cohabiter avec les militaires. En tout cas, c'est le moment de renforcer notre mariage civilo-militaire qui était vraiment compliqué la fois passée. Et ces gens-là sont connus par les victimes. Ils doivent être traqués dans différentes unités pour qu'ils soient punis conformément aux lois militaires, pour décourager d'autres éléments qui se donnent le courage même d'ériger des barrières à Vlemcité, aux environs de Mutuanga pour rationner la population, mais aussi multiplier des séances de sensibilisation de nos militaires parce que ce sont de nouvelles unités.
Radio Kapi n'a pas pu avoir la réaction de l'armée à ce sujet, mais une source militaire dans la zone renseigne que des enquêtes sont en cours avec le concours des autorités locales afin d'arrêter les militaires auteurs de ces actes. Justice au Nord Kivu. La peine de mort, c'est le verdict prononcé samedi dans la soirée par le tribunal militaire de garnison de Goma contre le soldat de 2e classe de la garde républicaine. Le condamné était poursuivi pour 2 chefs d'accusation, à savoir meurtre et dissipation des munitions de guerre. Les familles des victimes exigent l'exécution immédiate de la sentence du tribunal. Gabriel Ouamenia nous en dit plus.
Coiffé de son béret rouge et entouré de ses avocats, lorsque le capitaine magistrat Biamungu Munanire prononce la peine de mort contre le soldat Endondo Engulu, ce dernier est condamné in solidum avec l'État congolais au paiement d'amende aux familles des victimes. Pour la petite histoire, ce soldat s'est dans la soirée du 9 avril introduit dans un restaurant en compagnie de son compagnon d'armes habillé en tenue civile. Après avoir été servi par les responsables de l'auberge, le soldat condamné s'est emparé farouchement du téléphone d'un autre client trouvé dans la buvette. Pendant que le propriétaire de l'auberge voulait savoir pourquoi ce soldat avait pris le téléphone de son client, le condamné a directement ouvert le feu sur le propriétaire du bistrot en tirant 3 balles, l'esquivant sur les coups. Dans sa colère, il tire sur un autre client qui décède et par mégarde, il tire aussi sur son compagnon d'armes en tenue civile qui meurt également. Le soldat tueur est alors maîtrisé par son compagnon d'action d'unité venue sur les lieux du crime. L'homme sera remis ensuite à la justice. Après les prononcés, les familles des victimes exigent que ces soldats soient exécutés publiquement afin, disent-ils, de dissuader d'autres potentiels criminels. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la visite ce week-end à Goma d'une délégation de l'Union européenne. C'était pour palper du doigt la situation des déplacés internes dans différents sites des déplacés situés aux alentours de Goma. Dans une conférence de presse tenue samedi, cette délégation, conduite par l'ambassadeur de l'Union européenne, a annoncé avoir déjà disponibilisé une nouvelle aide humanitaire d'un montant de 70 millions d'euros. Ce financement de l'Union européenne, dont 90%, soit 63,75 millions d'euros, sont destinés à des projets humanitaires en RDC, notamment dans l'est du pays. Giuseppe Angelini, responsable de l'aide humanitaire en Afrique centrale et occidentale basée à Bruxelles, s'est dit toutefois inquiet du retrait de la MONUSCO qui, selon lui, risquerait d'entraîner des conséquences humanitaires. Il l'a dit au micro de Bernardine Diambou.
Cette année, on démarre avec 70 millions d'euros et probablement on fera plus en cours d'année. Par rapport à l'énormité des besoins, quelques gouttes dans la mer, il n'y a jamais une solution humanitaire à un problème humanitaire. Ça, je le répète tous les temps. Les problèmes sont immenses dans tous les secteurs. La protection des civils, la sécurité alimentaire, l'eau et assainissement, la santé, la logistique, la situation des violences de genre et sexuelles dont sont victimes pour la plupart les populations déplacées, ce sont tous des secteurs qui nous préoccupent. Les départs de la MONUSCO pourraient avoir des conséquences si elle n'est pas bien préparée en termes humanitaires, en exposant davantage les civils au danger des violences, en réduisant l'espace humanitaire parce que l'insécurité pourrait augmenter, en soutien des populations civiles pourrait être réduite, et aussi en termes d'infrastructures et de logistique.
Et puis, lancement officiel ce week-end à Kinshasa de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation sur la résolution des conflits par les modes alternatifs, incluant les négociations, la facilitation, la médiation et l'arbitrage. Campagne lancée par le Centre d'arbitrage et de règlement amiable des différents RDC, le médiateur agréé de ce centre recommande l'implantation des cellules de règlement des conflits dans les écoles, les universités, les entreprises et même les églises au regard de la multiplicité des formes des conflits dans le pays. Romain Kone, également membre du panel global de médiation des Nations Unies, pense que les conséquences des conflits continuent à retarder le développement de plusieurs villes et villages de la RDC. Ses propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Le conflit au Congo, on ne les explique pas. Nous les vivons chaque jour et nous dormons avec les conflits. Il est vraiment nécessaire que nous puissions changer les fusils d'épaule en considérant le voie des résolutions pacifiques des différends pour que nous puissions vider tout ce qu'il y a comme séquelles parce que le pays a été déchiré par les conflits à plusieurs reprises, des conflits très violents qui doivent certainement avoir laissé un impact et continue à avoir les conséquences sur la société, sur nos églises, sur nos institutions. Les conséquences vont perdurer. Il est temps que nous puissions chercher à approcher toutes ces questions avec la mise sur pied des mécanismes combinés à la fois de justice et de réconciliation pour que nous puissions continuer à vivre ensemble et que nous ayons la possibilité de construire un avenir. Nous sommes dans une société où le recours au mode d'adversité, d'affrontement qui nous oppose est une tendance généralisée.
Notez que cette première phase de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation sur la résolution des conflits par les modes alternatifs se tient dans les universités de la RDC, notamment l'UNIKIN et l'UPN. Opération d'identification et de contrôle des agents et fonctionnaires de l'État initiée par le ministère de la fonction publique dans la province du Kwango. Plusieurs agents n'y ont pas participé. La délégation partie de Kinshasa pour cette opération, outre les difficultés liées aux erreurs constatées sur les fiches d'identification, elle n'est disposée que d'une courte durée pour cette mission dans deux territoires, une situation qui n'a pas permis le contrôle de tous les agents, dont certains ont parcouru des longues distances pour atteindre Kasongo-Lunda. Ces derniers demandent l'intervention des autorités pour une solution urgente. Le point avec Irène Bauma.
Débuté le 7 avril en cours dans la cité de Kasongo-Lunda, c'est le vendredi 12 du même mois que cette opération d'identification et contrôle physique des agents et fonctionnaires de l'État du territoire portant les mêmes noms a été suspendue. Du coup, des centaines de fonctionnaires venus de différents coins de cette entité, comme à Tembo, à Panzi et ailleurs, n'ont pas bénéficié de cette opération de contrôle. Cette situation suscite des inquiétudes et des tensions auprès de ces derniers qui s'interrogent sur les sorts leur réservés. Quant à
l'État
que l'État congolais puisse multiplier les types de contrôle pour faciliter la tâche aux agents. La situation est compliquée. Nos collègues avec qui nous sommes venus, leurs fiches manquent de côtes ou contiennent des erreurs et ils ne sont pas contrôlés. Les numéros matricules sont là, mais ils ont modifié mon poste et nom. Nous venons de très loin et nous avons beaucoup dépensé pour notre déplacement. Nous ignorons encore la suite. Pour l'administrateur AI de Kasongo-Lunda, Henri Kani, qui invite les concernés au calme, la délégation des contrôleurs venus de Kinshasa n'a pas le droit de proroger son séjour dans cette entité, car elle n'a que 7 jours pour des territoires dont Kasongo-Lunda et Popokabaka dans la province du Kwango. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale. Ce lundi 15 avril, cela fait exactement un an jour pour jour depuis le début du conflit au Soudan. À cette occasion, Paris accueille une conférence internationale pour le Soudan et les pays voisins. La guerre dans ce pays a fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 8 millions de personnes selon l'Organisation des Nations Unies.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Giuseppe Angelini, membre de l'Union européenne au département des affaires humanitaires et protection des civils. Il est aussi responsable de l'aide humanitaire en Afrique centrale et occidentale basée à Bruxelles. En séjour à Goma, il nous parle d'abord de l'objectif de sa mission au chef-lieu du Nord Kivu, mais aussi du financement de l'Union européenne estimé à 70 millions d'euros pour des projets humanitaires dans la région des Grands Lacs. Il s'entretient avec Bernardine Diambo.
Monsieur Giuseppe Angelini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Union européenne dans le département des affaires humanitaires et des protections des civils basé à Bruxelles. Aujourd'hui, vous êtes à Goma. C'est dans quel objectif?
Moi, j'effectue une mission d'une semaine au Nord Kivu, au Sud Kivu, et j'ai passé aussi quelques jours à Kinshasa avant de venir ici pour me rendre compte directement de ce qui se passe sur le terrain, de la souffrance et des conditions souvent inhumaines dans lesquelles des centaines de milliers de déplacés congolais vivent actuellement, de ce que nos partenaires, agences des Nations Unies, organisations non gouvernementales, Croix-Rouge, mettent en œuvre sur place pour pallier à cette souffrance et à ces besoins humanitaires, compte tenu du fait que l'Union européenne a alloué en 2023 100 millions d'euros. Ça représente une augmentation budgétaire parce qu'on avait commencé l'année avec 41 millions d'euros. Cette année, on démarre avec 70 millions d'euros. Et probablement, on fera plus en cours d'année. Ça reste quand même, par rapport à l'énormité des besoins, quelques gouttes dans la mer. Il n'y a jamais une solution humanitaire à un problème humanitaire. Ça, je le répète tous les temps. Les problèmes sont immenses dans tous les secteurs. La protection des civils, la sécurité alimentaire, l'eau et assainissement, la santé, la logistique, la situation des violences de genre et sexuelles dont sont victimes pour la plupart les populations déplacées. Ce sont tous des secteurs qui nous préoccupent. Les départs de la MONUSCO pourrait avoir des conséquences, si elle n'est pas bien préparée, elle pourrait avoir des conséquences en termes humanitaires, en exposant davantage les civils au danger des violences, en réduisant l'espace humanitaire parce que l'insécurité pourrait augmenter et donc la présence des humanitaires en soutien des populations civiles pourrait être réduite, et aussi en termes d'infrastructures et de logistique.
Venez de palper du doigt la situation qui se passe ici au Nord Kivu, notamment celle de personnes vulnérables et déplacées. Quel constat faites-vous?
Les constats que je fais, c'est que les conditions sont déjà inhumaines. Ce que nous avons vu hier dans 4 camps de déplacés 3 sur l'axe nord et les camps de Lushagala sur l'axe Versaké. C'est des conditions de vie inacceptables pour des êtres humains, que ce soit au niveau des abris, que ce soit au niveau de l'accès à l'eau potable, l'accès aux soins de santé et des bases. Donc ça, c'est un premier constat. Un deuxième constat, c'est qu'il y a une présence d'armes dans les sites de personnes déplacées et ça pose de plus en plus de problèmes. La question de Ouazalendo, c'est certainement quelque chose qui inquiète. Comment encadrer ces milices et aussi les positionnements d'artillerie. Par exemple, la semaine dernière, il y a juste une semaine, il y a eu un accident majeur dû au fait que l'artillerie était à proximité des camps. Donc ça, c'est un autre constat qu'on fait. Et puis, les conditions pourraient ne pas être propices pour une solution rapide et donc l'inquiétude d'un éventuel élargissement des combats, de la situation des violences en dehors de Goma, tant au nord qu'au sud du Nord Kivu.
Comme vous avez déjà visité quelques camps de déplacés aux alentours de Goma, quel est l'apport de l'Union européenne peut-être pour soulager cette population vulnérable?
On a déjà une allocation initiale de 70 millions d'euros. Les secteurs d'intervention sont multiples. On a la sécurité alimentaire, l'eau, l'assainissement, la santé, la logistique, la protection et aussi les questions de violence sexuelle.
Les 70 000 euros, c'est uniquement pour le Nord Kivu?
Non, ça c'est pour l'ensemble de l'Est de la RDC. Donc, je dirais que 95%, voire plus, de notre budget est dépensé à l'Est du Congo. Parce que les conflits du M23 est actuellement le problème majeur à l'Est du Congo, mais il n'est pas le seul. Il y a d'autres situations problématiques pour lesquelles nous apportons aussi une aide humanitaire à travers de nos partenaires.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci à vous.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.